Bonjour à toutes et à tous, toutes et à tous et à toutes. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM et Graphite.net. Je suis Stéphane Crozat et je suis en studio avec plein de gens. Je suis avec Nicolas, Sian, Sarah, Rémi, Emma, Iris et Domitille. Et je suis également avec Alexandre Brandy et Yann Kervran. On est ici dans le cadre de... Et puis il y a aussi Isabelle Aubout qui est juste en face de moi, que j'ai failli oublier. Je devrais parler à ma place d'ailleurs, mais bon, du coup, c'est quand même moi qui parle. Et donc, nous sommes ici dans le cadre d'un atelier d'écriture solarpunk qui s'est déroulé toute cette semaine, que l'on terminera eh bien, dans les 20 minutes qui vont suivre par donc, ces dernières lectures. Et donc, les étudiants et étudiantes qui ont travaillé cette semaine eh bien, lisent en ce moment sur Graphite le texte qu'ils ont écrit. Le groupe actuel avait comme thématique globale hein, alimentation, autonomie et partage et canal, pourrait-on dire, puisqu'on terminera avec une nouvelle en lien avec le projet du canal Seine Nord Europe. Donc voilà, ben le genre solarpunk, hein, c'est donc un genre littéraire dont l'enjeu est d'imaginer des futurs socio-écologiquement plus désirables, d'autres trajectoires techniques qui nous emmènent sur des chemins plus désirables, je l'ai dit. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais bientôt passer la parole pour le début, donc juste rappeler que toutes ces histoires se passent dans un univers commun, hein, une université populaire, libre, ouverte, accessible et décentralisée, dans un Compiègne des années 2040-2050. Et donc on va démarrer avec Nicolas et l'ancien aquarium.
Une faible lueur issue d'un des couloirs me permettait de discerner les murs et le sol et laissait apparaître sur les murs des affiches déchirées, de la peinture écaillée et d'autres détritus. En me dirigeant vers la lumière, je rentrais dans une nouvelle pièce, le bassin des requins. En m'approchant, je remarquais rapidement que le bassin était vide et certaines vitres brisées. Je décidai d'entrer pour regarder l'intérieur. En accédant à l'intérieur, j'élargissais l'une des ouvertures avec des coups de pied pour ne pas me blesser en entrant. Lorsque je mis un pied dans le bassin, je me maudis. Il s'immergea dans les quelques centimètres d'eau restant au fond, laissant mes pieds transis de froid. Je sentis le sable humide s'enfoncer légèrement sous mes pieds et de petites bulles d'air remonter dessous le sable. Autour de moi, des roches de toute taille formaient le sol du bassin, certaines pas plus grandes qu'une noix, d'autres presque aussi grandes que moi. Ma curiosité légèrement morbide me poussa à regarder si je ne trouvais ce qu'il restait des anciens propriétaires des lieux. Je ne distinguais pas le moindre requin ni la moindre carcasse dans les débris du toit, tombé dans la cuve en me décidant à m'enfoncer dans ce décor glacial. En avançant dans l'eau froide, je m'amusais à regarder les cristaux de sel formés au fond de l'eau et sur les pierres alentour. Le bassin avait déjà dû se vider en grande partie bien avant que les vides ne soient brisés. Et le toit à moitié effondré en était assurément la cause. Au détour d'une roche particulièrement haute, j'aperçus Arthur dans le sable. Adossé à une pierre, il semblait assis à m'attendre là. Avant même de pouvoir l'appeler, je vis ce qui n'allait pas. Il était là sans être là, son corps tuméfié, scarifié, torturé, était recouvert de sang coagulé, et ses jambes immergées se distinguaient à peine dans l'eau devenue pourpre. Je cherchais désespérément son pouls, en tâtonnant entre son cou et sa nuque à la recherche d'une trace d'espoir. Dans un haut le cœur, je me rendis compte de l'horreur de ce que je voyais. Il était couvert de traces de dents et son corps, encore chaud au toucher, se refroidissait à une vitesse alarmante. Les yeux embués, je le regardais effondré au sol mort. Ses vêtements déchirés dévoilaient son corps mordu et amputé.
Merci Nicolas, et on enchaîne, on continue avec le texte de Sian, Construction d'une utopie, et donc Sian qui sera aidé par Emma à la lecture, c'est quand vous voulez.
Alors, on a pour mon histoire, j'ai fait un format assez particulier, c'est-à-dire que c'est un canal, le Mattermost, où des gens discutent de comment ils vont construire leur utopie, Emma fera tout ce qui va être ce qu'on pourrait appeler les didascalies du texte.
Quand vous voulez.
24 juin 2042. Low Life à 10h05.
Aux membres du groupe Quid de l'Orga de l'Agriculture. Avec les membres du groupe Quid de l'Orga des Repas, on s'était demandé à quoi ressemblerait votre version actuelle de l'agriculture. On voudrait proposer des repas communautaires dans de grands espaces type hangar, entrepôt ou dehors quand il fait beau. On aimerait savoir comment créer ce lien entre les agriculteurs et cuisiniers. Et pour info, on voudrait proposer une cafette, un endroit où on peut grignoter quand on a faim. Hall, est-ce qu'on sait s'il y aura de l'argent dans notre utopie ?
Espoir de vivre, 10h22.
Ce sera bientôt plus une utopie, mais la réalité.
Pâle, 11h36.
@lowlife, pour ton problème de communication cuisinier à l'agriculteur, je ne peux pas t'aider. Je suis dans le groupe consommation d'animaux. Mais pour l'argent, on a une autre branche du RCEFD qui s'en occupe. Ils proposent qu'on reparte tous de zéro et ils veulent créer un système de points où tout le monde reçoit le même nombre au début du mois, peu importe leur implication dans la communauté.
Lex, 10h13.
Non ! Mon argent, difficilement gagné lors de l'occupation et même avant.
Concombre de l'espace, 12h13.
Paix à son âme.
Crépuscule d'un autre monde, 14h48.
Merci pour l'info, @Paul.
Doomsday Clock, 15h02.
Je suis du groupe Orga Agriculture. Je te propose qu'on fasse un autre canal pour parler de cette problématique. Ça éviterait d'encombrer ce canal.
Le communiste de service, 22h03.
Marseille a déclaré son indépendance ! Wouhou !
Le 26 juin 2042. Lex à 16h13.
J'ajoute de nouveaux cerveaux dont les corps ont été abîmés par les autorités et qui se sont retrouvés au hangar suite aux manifs d'hier.
Système, 16h13.
@Kaleidoscope et 23 autres personnes ont été ajoutées au canal par @Lex.
Pièce de puzzle, 18h04.
Voici les réflexions du groupe Quid de l'eau en PJ.
Pâle, 18h46.
@pièce de Pulse et le reste de l'équipe Quid de l'eau. Merci pour votre contribution.
Merci beaucoup, Siane, pour ce texte et également Emma pour l'aide à la lecture. Eh bien, on va écouter à présent Sarah pour Le cauchemar sans fin, fin FIM.
14 mars 2045. J'ai encore fait ce cauchemar. Il commence toujours de la même façon. Un geste simple, banal, presque rassurant. Je porte quelque chose à ma bouche. C'est tiède, lisse, parfaitement emballé dans le rêve, comme si rien ne pouvait aller de travers. Autour de moi, personne ne parle. Personne ne regarde. Je mâche sans réfléchir, et c'est précisément là que tout se joue. À l'instant où je sens que j'ai avalé, sans savoir encore quoi. Je me réveille avant la douleur, avant la peur, avec cette certitude sourde que le mal a déjà commencé, qu'il est trop tard pour recracher. Quand j'ouvre les yeux, la chambre est silencieuse, traversée par la lumière du matin. Dehors, la commune s'éveille lentement, comme chaque jour. J'entends les premiers pas, les voix au loin, l'eau qu'en tire pour la cuisine collective. Tout va bien. Et pourtant, mon corps ne l'a pas encore compris. Il me faut quelques secondes pour me rappeler que ce monde-ci n'est plus celui du rêve, que manger n'est plus un acte aveugle. Alors je prends ce carnet. Je note la date. J'écris. Parce que ce cauchemar revient trop souvent pour n'être qu'un reste de peur. Et parce que certaines choses, si on ne les fixe pas quelque part, finissent toujours par recommencer. Quand je sors enfin de la chambre, la commune est déjà en mouvement. Pas pressée, jamais pressée. La matinée s'installe comme une respiration. Sous la halle, les tables ont été sorties, alignées sans qu'on ait besoin de se parler. C'est toujours quelqu'un d'autre qui commence, et les autres suivent. Les pains refroidissent sur des linges en fibres végétales, enveloppés dans des feuilles épaisses de papier brun. Sur chaque paquet, un mot, un signe tracé au crayon, rappelle qu'il a préparé. Rien n'est scellé, rien n'est dissimulé. On voit ce que l'on va manger. On peut le toucher, on peut le comprendre. Ici, presque tout est en papier, en carton, en matière végétale retravaillée. Des emballages pliés à la main, des contenants en papier mâché durci à l'amidon, des sacs utilisés jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Même certaines parois des bâtiments en portent la trace. Couches de papier compressées, réparées au fil de temps. Jamais remplacé d'un seul coup. On ne jette pas. On enlève ce qui ne tient plus. On referme, on ajuste. Fermer fait partie des gestes ordinaires, ceux qui permettent au reste de durer.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I'm reaching light. Through the struggle, just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself all in slow motion.
suffocate me, so my tears can be rain. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
Vous êtes sur Graphite 94.9. On vient d'écouter Seed de Aurora. Et nous allons à présent continuer d'écouter les étudiants et étudiantes de l'Université Technologie de Compiègne qui nous lisent les récits solarpunk qu'ils ont écrits cette semaine. Et nous sommes en ce moment avec le groupe Alimentation, Autonomie et Partage. Et nous allons donc écouter comme texte à présent le récit d'un nouveau temps par Rémi.
Alors donc, tout d'abord, pour donner un peu de contexte, ça se passe vers 2055. Et on est dans un univers où les villes, notamment Compiègne, a été désertée. Donc la nature a repris le dessus. C'était le but du récit. Et les gens ont fui vers les forêts pour vivre dans des clairières beaucoup plus simplement. Donc ce que je vais lire, c'est un extrait. Ce n'est pas le début, mais c'est juste un extrait de la nouvelle qui montre un peu la vie dans le village. Voilà. Plus tard arriva un jour des plus essentiels pour la communauté. Comme tous les 3 ans, une nouvelle génération était mise à l'épreuve. Celle de construire des logements pour remplacer ceux construits 10 ans plus tôt. Les jeunes gens ont ainsi dû étudier depuis 3 ans comment édifier une paillourte, un habitat modeste fait de paille, de bois et de terre. Ce projet est un des rares moments où Duval arrive à se sentir proche de ses camarades, enjoué par la création d'un projet aussi important. Il en oublie même sa timidité. C'est le grand moment pour toutes et tous, celui d'installer la porte en bois, récupérer de la paillourte qui allait être détruite pour être remplacée par celle construite. Suite au posage de cette porte, applaudissements et autres célébrations retentirent, qui marquèrent la fin d'une éducation la dernière étape avant l'apprentissage d'un métier auprès d'un artisan confirmé pour les jeunes gens, et ainsi leur entrée dans la vie adulte. Lorsque ce sentiment d'accomplissement, de réussite s'estompa, un goût amer envahit Duval. Il ne comprenait pas pourquoi on fabriquait des maisons moins durables, au lieu d'utiliser uniquement du bois, comme ce que l'on appelait chalet autrefois. Il ne saisissait pas pourquoi on faisait le choix de faire bien plus d'efforts pour une construction moins durable, au seul nom de la tradition et de l'austérité. Troublé, il mangea son repas en vitesse et partit étudier sa nouvelle idée, et il s'endormit alors pendant ses tumultueuses réflexions.
Merci, on enchaîne avec Emma et l'incendie.
Le dîner était fini depuis quelques heures quand Minerva s'écroula, terrassée par la fatigue, sur le matelas de sa petite chambre. Son corps, engourdi et lourd de courbatures, lui réclamait du repos à grands coups d'élancement douloureux dans tous ses membres. Son repos fut très bref. Minerva fut réveillée en pleine nuit par une clameur. Intriguée, elle s'était levée et approchée de la fenêtre lorsqu'une de ses cohabitantes déboula en trombe dans la pièce, affolée. « Minerva, les cultures, le bâtiment, tout, tout est en train de brûler !» Le choc, ou peut-être la peur, l'immobilisa, mais seulement l'espace de quelques secondes. L'instant d'après, la vieille femme était sur les marches de l'immeuble, usant de toutes ses forces pour marcher le plus vite possible jusqu'au lieu de l'incident. « Viens, monte !» Sa collègue s'était emparée d'un des vélos cargo du parking. Elles pédalèrent, comme si leur vie en dépendait, vers la zone sud. Et déjà, elle pouvait apercevoir une lueur rougeâtre se détacher dans les ténèbres. Un groupe de personnes paniquées s'était formé aux alentours du bâtiment, en proie aux flammes destructrices, qui s'emparaient maintenant des parcelles adjacentes. Minerva était pétrifiée, ne sachant que faire pour sauver ses chères cultures et ses insectes, tous ces systèmes que l'upload avait mis tant de temps à optimiser et à installer, tous ses espoirs et ses années de travail. Tout ça dévoré par le feu. Bien sûr, la sécheresse de l'air ambiant ces derniers jours n'avait pas joué en leur faveur. Il fallut une petite dizaine de minutes aux membres de l'unité de sapeurs-sauveteurs de l'Upload pour intervenir et parvenir à maîtriser l'incendie tant bien que mal. Il était déjà trop tard.
Merci, on va continuer avec l'avant-dernier texte déjà d'Iris pour une recette d'été.
Avec ses hautes fenêtres et son odeur de citron, la cuisine de l'Upload était sûrement son endroit préféré. Il y avait toujours du monde pour éplucher les légumes fraîchement récoltés, mélanger diverses sauces et bouillons et préparer les repas de la journée, mais surtout pour discuter et pour chanter. Elle aurait pu s'asseoir là toute la journée, sur l'un des bancs en bois qui encadraient la table centrale, et se laisser bercer par les conversations. Mais ce jour-là, elle avait un objectif bien précis en tête. La veille, alors qu'elle empaquetait les tartes à la framboise dans du papier, pour celles qui passaient la journée à l'atelier, l'une des feuilles avait attiré son attention. Le titre « Recette pour un cake d'amour » était inscrit au centre. Le nom l'avait intriguée et elle avait mis la page de côté pour faire la recette plus tard. Ce jour-là, il faisait beau, le four solaire tournait donc à plein régime, faisant cuire les innombrables quiches, tartes et clafoutis qui nourrissaient le plot dans ce mois de juillet. Elle se demanda alors comment adapter la recette aux ingrédients à sa disposition.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four.
Merci, on va écouter le dernier texte. Le dernier texte s'éloigne un peu de la thématique du groupe, bien qu'il y avait l'autonomie, le partage. L'idée était de réfléchir peut-être autour du projet de Méga Canal quelques années après, peut-être une fois que les projets inutiles ont pris fin. Et nous avons donc Domiti pour La Reine Grise.
Donc pour un peu de contexte, l'histoire se passe 7 ans après l'arrêt des travaux. Donc il y a déjà des alternatives qui ont été mises en place. Je m'arrête un instant devant un pommier, je ferme les yeux et le présent disparaît. La brise fraîche et le chant des oiseaux m'entraînent dans un voyage nostalgique. Je retrouve mes 10 ans, en 2015, plein d'innocence. À cet instant précis, le canal n'était même pas une idée. Il n'y avait que l'Oise, serpentant entre les arbres. Avec mes parents, nous avions l'habitude de pique-niquer au bord de l'eau une fois par mois. Ces moments semblaient hors du temps. À travers mes yeux d'enfant, tout était merveille. Une fleur sauvage, un oiseau qui s'envole, les branches dansant dans le vent. Elles étaient tellement nombreuses que leur nom m'échappait. Puis tout cela a été remplacé par le canal. Et dans ce nouveau décor, la vie d'autrefois a dû se faire discrète, puis silencieuse. J'ai toujours porté en moi l'amour du vivant. Je considère la nature comme une symphonie dans laquelle chaque espèce serait un instrument. Cette passion, je l'ai transmise avec fierté à ma fille Ondine. Elle est devenue ornithologue et me décrit régulièrement les oiseaux qu'elle étudie, même si parfois, elle devient triste quand elle me parle de ceux qui ont disparu. La dernière fois, elle me décrivait la grue cendrée, un oiseau majestueux et d'un gris élégant, avec des longues pattes, une ligne blanche le long de son cou et une tache rouge vive sur le sommet de son crâne. Lorsqu'elle s'envole, on dirait une reine. Mais d'après Ondine, le plus impressionnant reste son cri, un crou-crou puissant qui résonne au loin. Ma balade me mène ensuite à la zone 5, une zone plus sauvage où l'humain a cessé d'intervenir. Ici, rien n'est planté, rien n'est coupé. C'est juste la nature qui reprend ses droits. Les berges ne sont plus des murs de béton, mais des pentes où la boue et l'eau se mélangent. Depuis l'arrêt des travaux, des sols cendrés et des zones glutineux ont poussé à toute allure, de part et d'autre de l'eau. Dans les zones plus humides que le canal aurait asséchées, on trouve des tapis de rubanier et de baldingère, des plantes semi-aquatiques essentielles pour filtrer l'eau et servir de refuge à la faune. Le sol, lui, est recouvert de bois mort, qui sert de refuge aux insectes et aux champignons. J'apprécie l'air frais qui balaye mes cheveux. On sent qu'un équilibre naturel est revenu. La terre n'est plus une machine. La terre est une maison.
La terre est une maison. Eh bien, on terminera notre semaine d'atelier d'écriture solarpunk sur ces quelques mots et sur voilà toutes les histoires que vous avez écrites et que vous êtes venu nous lire aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'atelier solarpunk de l'UTC. Merci encore à vous. Merci à Nicolas, Sian, Sarah, Rémi, Emma, Iris et Domiti. Merci aussi à vos animateurs, animatrices qui vous ont accompagnés cette semaine. Donc, je rappelle, Isabelle Aubou, Amélie Junca et Christine Roger, donc de l'Université Picardie Jules Verne, et qui étaient avec nous toute cette semaine. Et puis également Alexandre Brandy, auteur de Il y a longtemps que je mens, et Yann Kervan, auteur du cycle Arnaud de Jérusalem, que vous pouvez attaquer par exemple par le premier tome, La Nef des loups. Eh bien, ces textes pourront être retrouvés sur Mastodon. On en fera un projet de publication les semaines et mois qui vont venir. Et puis l'émission elle-même peut être retrouvée sur aperi.tube. D'ici quelques jours également, on va se quitter sur une prose un petit peu plus rugueuse peut-être que celle d'Iris, mais eh bien on finira avec Fight the Power de Public Enemy cette semaine. Au revoir.
Playback.
Check. Don't worry, be happy. For the number one jam, feeling like.